Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Salut Philippe.
Salut Patrick.
OK, donc écoute, il y a une déclaration de François Legault là qu'il a faite il y a environ une heure et demie, ça a commencé à tourner sur les réseaux, qui sème beaucoup de controverses. Je pense qu'on l'a enlevé dans le bulletin. François Legault s'est fait demander, écoutez, il y a des défis d'intégration quand il est question d'immigration. On sait qu'il y a un débat sur les seuils. Il y a des partis qui en voudraient beaucoup plus que 50 000 par année. Et voici ce qu'a répondu François Legault.
Les Québécois sont pacifiques. Hein? Ils n'aiment pas la chicane, ils n'aiment pas les extrémistes, ils n'aiment pas la violence. Donc, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là actuellement.
Et évidemment, il y a beaucoup de réactions parce que ce qu'on reproche au premier ministre, Philippe, c'est de faire l'amalgame immigrant égale violence. Comment tu réagis?
Ben, je pense qu'on lui fait ce reproche-là avec raison, Patrick. Tu sais, quand on regarde tout l'enjeu de l'immigration au Québec, qu'il y a un défi sur l'intégration des immigrants, je pense que c'est clair. Tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Qu'il y ait un défi pour qu'ils s'établissent partout au Québec et non pas en immense majorité dans l'île de Montréal, ça aussi, on s'entend que une régionalisation de l'immigration, ça serait une bonne affaire. Qu'il y ait un défi pour qu'ils apprennent le français plus rapidement, qu'ils l'apprennent de façon à pouvoir converser le plus vite possible. On s'entend également que c'est une bonne idée. Et je pense même que en 2018, dans la campagne électorale, quand François Legault avait dit à propos des immigrants, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin, il y avait de l'empathie là-dedans. On pouvait pas être d'accord avec le « on va en prendre moins », mais le « on va en prendre soin », il y avait quand même une forme de générosité là-dedans. Venez, moins nombreux, mais on va bien s'occuper de vous. Mais là, voilà, 4 ans plus tard, c'est un discours complètement différent. Ce qu'il fait aujourd'hui, Patrick, là, c'est qu'il associe, en termes pas mal clairs, on vient d'entendre là la réponse à la question, il associe la hausse de l'immigration à une hausse potentielle, là je vais reprendre ces mots, de la chicane, hein, des extrémistes, de l'arrivée d'extrémistes et de la violence. C'est ce qu'il dit. Il dit par la négative, mais c'est ça qu'il veut dire. Alors qu'il fait quoi quand il fait ça? Ben, il joue sur la peur de l'autre, Patrick.
Ben,
il joue sur les préjugés.
Il joue, en fait, sais-tu quoi, Philippe? Moi, j'aimerais ça voir des chiffres, OK? Puis là, j'ai pas eu le temps de plonger là-dedans. J'ai essayé de le faire dans les pauses, là. Puis des fois, on le sait, les statistiques, ça peut être assez complexe. Mais j'ai toujours pensé que, malgré ce qu'on pouvait avoir comme perception, c'est pas vrai que les immigrants commettent plus de crimes que les gens qui sont nés ici, OK? Ça, c'est il me semble avoir lu ça. On verra les faits, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est les faits, justement. Si le PM pense que immigration égale crime, est-ce qu'il y a des stats? Est-ce qu'il y a de la recherche? Puis s'il y en a, ben écoute, après ça, on fera le débat là-dessus. Mais là, j'ai l'impression qu'on fait le débat avec, disons, des épouvantails. Ouais. C'est l'impression que j'ai.
Et tu sais, on pourrait dire que, par exemple, avec le troisième lien, c'est un peu la même chose dans la mesure où les études, on les a pas. C'est le premier ministre qui nous dit que ça prend un troisième lien. Sauf que là, on parle pas d'une infrastructure de béton, Patrick, on parle d'être humain. Imagine, là, c'était un immigrant au Québec aujourd'hui, un nouvel arrivant. Hein? T'es là depuis pas tellement longtemps, depuis un an, par exemple. Tu veux suivre la campagne électorale, puis là, t'entends ton premier ministre faire la déclaration d'aujourd'hui. Tu te sens comment? Est-ce que ça veut dire que tu poses la question, est-ce que mon gouvernement associe ma présence à une augmentation potentielle de la criminalité, à une augmentation potentielle de la chicane au Québec? C'est assez important comme question, ça.
C'est quoi, Philippe? Il est possible que certains immigrants, certaines tranches d'immigrants, certains immigrants de certains âges fassent certains crimes, qu'on me le montre. Tu comprends? Où sont les chiffres? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Là, des gens dans la messagerie, en temps réel, m'écrivent, il y a raison. Regardez la couleur du monde qui tire. Ça, pour moi, c'est pas des faits.
Non.
C'est une partie du portrait. Après ça, c'est quoi le portrait statistique réel? Je suis convaincu que quelque part, il y a des chiffres qui vont valider ou invalider ce qu'a dit le PM, moi, je pense que c'est urgent qu'ils sortent les stats. Parce que ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est assez lourd.
C'est très lourd. C'est très lourd, puis je suis pas sûr qu'il va en trouver des stats. Et quand j'entends Dominique Anglade dire, par exemple, c'est un amalgame dangereux que fait le premier ministre aujourd'hui, je pense qu'elle a entièrement raison. Et l'exemple de Dominique Anglade au premier chef est certainement un exemple d'immigration réussie. Ses parents sont arrivés d'Haïti. Elle ne notait d'ailleurs aujourd'hui. Son père a contribué à la fondation de l'Université du Québec à Montréal. Bon, c'est pas tout le monde, pas tous les immigrants qui ont contribué à la fondation d'une université, on s'entend, mais des histoires réussies d'immigration au Québec. T'en as parlé souvent dans tes chroniques aussi. Il y en a plusieurs. Alors que le premier ministre se dirige vers sur ce territoire-là aujourd'hui, moi, je trouve ça, tu sais, hier, je parlais de sa relation avec Montréal. Je pensais pas revenir sur le sujet de François Legault aujourd'hui, mais là, c'est évidemment, le sujet est incontournable avec cette déclaration-là. Mais je pense qu'il va falloir qu'il s'explique, davantage.
J'ai une question parce que, tu sais, François Legault a dit ça. Nous, on trouve ça très gros. Mais en même temps, c'est pas sa base électorale à François Legault, l'immigration. T'sais, j'ai l'impression qu'il parle à une famille moyenne, blanche, québécoise. T'sais, j'ai l'impression que pour lui, ça sera pas si dommageable que ça.
Ben, si c'est ça, Catherine, c'est un peu triste, dans la mesure où il est le premier ministre de tous les Québécois. Et il n'est pas candidat pour la première fois. Il aspire pas à devenir pour la première fois premier ministre du Québec. Il aspire à renouveler pour un deuxième mandat. Donc, il est déjà en poste.
Philippe, j'aimais une hypothèse, OK? Je pense que à la CAQ, on n'aime pas beaucoup voir Éric Duhaime dans le rétroviseur, surtout à Québec, OK? Et monsieur Duhaime a pas beaucoup abordé présentement l'immigration. Par contre, il en a parlé quand il était à la radio, et il y a le principe très contesté de compatibilité civilisationnelle dans le programme du Parti conservateur du Québec. Mets ça à côté du fait que monsieur Legault, on l'a vu là à la ronde d'entrevue avec Radio-Canada, a beaucoup tapé sur Montréal. J'ai l'impression qu'il a fait une croix sur Montréal.
Il a peut-être fait une croix sur Montréal, mais encore une fois, c'est un mauvais calcul parce qu'il y aura l'après-élection puis il devra composer avec Montréal. Maintenant, sur le nouveau le seuil d'immigrants qu'on devrait accepter au Québec, le Parti conservateur et la Coalition Avenir Québec voient ça de la même façon. Les deux mentionnent le chiffre de 50 000 nouveaux arrivants par année. Mais si il essaie, tu parles qu'il voit le Parti conservateur dans son rétroviseur, s'il veut livrer cette bataille-là, Patrick, sur le dos des immigrants, je pense pas qu'un premier ministre devrait se comporter comme ça. Philippe, qu'il le fasse sur le troisième lien, c'est une chose. Qu'il le fasse sur le dos des immigrants, c'est une mauvaise chose.
Qui est une question explosive. Puis je le répète, là, je vois, là, c'est en train de se déchaîner dans ma messagerie. Les gens me disent, ouvre le journal, tu vas voir qu'il a raison. Écoutez, le journal fait des nouvelles sur des faits divers. Soit, je vois des faits divers avec des Blancs. Je vois des faits divers avec des Tremblés, avec du monde né ici. Moi, ce que j'aimerais voir de mon premier ministre là, dans les heures qui vont suivre, c'est montrez-moi les stats. Sinon, vous avez parlé à travers votre chapeau.
Mais moi, je vous dirais une autre chose. Dominique Anglade a pas eu beaucoup de chance depuis qu'elle est à la chefferie du Parti libéral. Là, aujourd'hui, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Je viens de l'entendre, j'ai pas été infiniment impressionné, mais elle a une chance, là. Je dirais que c'est sa journée.
Ouais, ben, potentiellement, mais encore une fois, c'est dangereux. T'sais, est-ce que tu veux faire ta campagne sur un thème comme celui-là?
Il faut voir qu'elle fasse sur quelque chose, Philippe. Ouais, il n'y a pas beaucoup de poignées.
Ça, peut-être.
Là, il a envie d'avoir une poignée. Là.
Merci, Philippe.
Salut, Patrick.
On se retrouve demain.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK, il faut ajouter un autre terme à notre dictionnaire pandémique, bivalent, comme les vaccins bivalents qu'on dit plus efficaces contre le variant Omicron, vont être disponibles dans les centres de vaccination canadiens, dont au Québec, dès demain midi. C'est ce qu'a confirmé le directeur national de santé publique du Québec, le docteur Luc Boileau. On va parler de tout ça avec docteur Alex Carignan, microbiologiste infectiologue au CIUSSS de l'Estrie, CIUSSS et prof aussi à l'Université de Sherbrooke. Salut Alex!
Bonjour tout le monde.
D'abord, allons-y avec les termes. Ça veut dire quoi, bivalent, comme dans Moderna, Spikevax, bivalent? Bivalent.
En fait, c'est que c'est un vaccin qui va cibler maintenant deux cibles. En fait, au départ, on avait la souche originale. Maintenant, on va avoir la souche originale et aussi le variant Omicron original, donc le BA1, qui va être inclus dans le nouveau vaccin qui va être disponible maintenant au Québec.
OK, donc ça, c'est réputé être plus efficace pour tous les sous-variants d'Omicron, c'est ça?
Il faut faire attention. En fait, lorsqu'on parle de plus efficace, pour l'instant, on n'a pas de données cliniques. On ne sait pas jusqu'à quel point ça réduit davantage le risque d'attraper l'infection ou de faire une complication. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on donne ce vaccin-là, on va avoir davantage d'anticorps ciblés contre le variant Omicron. On semble aussi en avoir davantage contre le variant, entre autres, BA5, qui circule actuellement parmi nous. Mais jusqu'à quel point ça va se transformer en vraiment une protection plus efficace, ça, pour être honnête, on ne le sait pas pour l'instant. Il y a des données cliniques qui vont sortir sous peu sur le sujet, mais elles ne sont pas encore disponibles.
OK. Là, Alex, présentement, je suis à 3 doses. Est-ce que je devrais aller chercher ma 4e dose?
Bien, en fait, actuellement, c'est recommandé effectivement pour l'ensemble des adultes. C'est clair que pour moi, ce qui est plus important, c'est les gens plus à risque de complications, les gens plus âgés, les gens qui ont des comorbidités, des problèmes de santé de base, que ce soit des maladies cardiaques, pulmonaires et j'en passe, le diabète par exemple. Ces gens-là, ce sont eux qui se retrouvent hospitalisés dans nos unités de soins intensifs. Donc, en priorité, je crois que ces gens-là devraient aller chercher. Pour les autres, le vaccin peut aider à réduire l'infection, le risque d'infection. Ça peut aussi, en fait, peut-être diminuer la transmission, quoique ça, pour l'instant, c'est moins clair, mais je pense que dans plusieurs cas, ça peut être effectivement une bonne option. Il y a aussi le fait que le vaccin peut l'infection, par contre, les gens qui ont fait l'infection récemment, l'infection en elle-même apporte aussi une certaine protection pour quelques mois. Donc, si on a fait l'infection plus récemment, on est en bonne santé, il n'y a pas d'urgence à aller chercher sa dose de rappel.
OK. Si disons que j'essaie d'aller chercher ma dose de rappel, est-ce qu'on me donne le choix de prendre le vaccin bivalent ou d'en prendre un autre?
C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse, en fait, dans les centres de vaccination. Bon, ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est que pour les gens de plus de 30 ans, on allait offrir le vaccin bivalent. Est-ce qu'une personne qui ne le voudrait pas, qui voudrait, disons, le vaccin original? Honnêtement, je vois peu de raisons de le faire, mais si les gens veulent absolument le vaccin original, il va être encore disponible. Puis d'ailleurs, les plus jeunes qui voudraient une dose de rappel, c'est avec ce vaccin-là qu'on va les vacciner actuellement.
OK. Le vaccin Moderna bivalent, c'est 18 ans et plus, je pense.
30 ans et plus, selon ce que j'ai selon ce qui était annoncé, ce que j'ai vu aujourd'hui.
OK. Alex, on a souvent parlé, toi et moi, de l'État parfois là qui était très, très inquiétant pendant la pandémie, à certains moments dans les hôpitaux. Présentement, quelle est la lecture que tu fais des statistiques d'infection, d'hospitalisation?
Je dirais que c'est quand même, ça se passe relativement bien. Actuellement, on observe, je dirais, une décroissance de tous les indicateurs liés à la COVID, que ce soit des infections, des nouvelles hospitalisations, même dans les eaux usées. Donc, quand même, bon, le haut niveau d'activité qui a été observé cet été offre une certaine protection pour l'automne dans la communauté. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Évidemment, si on n'a pas un nouveau variant qui vient s'installer, pour l'instant, il n'y a pas, disons, de variant qui est très, très inquiétant, mais on le sait, on en voit apparaître de façon épisodique depuis 2 ans. Donc, mais pour l'instant, la situation est quand même, je dirais, relativement satisfaisante.
Pour ce qui est des hospitalisations en soins intensifs, là, surtout, Alex, est-ce qu'on a un portrait des gens vaccinés, non vaccinés? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de récalcitrants? Là? Est-ce qu'ils sont surreprésentés dans les unités de soins intensifs?
Je dirais que, disons, proportionnellement, oui, ça reste que la vaccination apporte une protection contre les formes sévères, on l'observe. On voit aussi, bon, des gens, malheureusement, qui ont plusieurs problèmes de santé, entre autres, souvent, les patients immunosupprimés, eux, ils répondent très, très mal à la vaccination. Donc, souvent, ce sont eux aussi qu'on va voir dans nos unités, qu'on cherche à protéger. Puis ça, c'est un point important aussi. On a la vaccination qui est un outil, mais on a aussi maintenant des traitements. Puis ça, ça nous a aidé à améliorer beaucoup le sort de nos patients. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont à risque, mais qui ne le savent pas ou qui ne se croient pas à risque. Donc, ils vont pas nécessairement consulter lorsqu'ils ont une infection. Ils vont pas nécessairement consulter leur pharmacien, leur médecin pour obtenir, par exemple, des traitements qui pourraient réduire leur risque de complications. Et quand ils se présentent dans les hôpitaux, souvent, il est trop tard. Donc, c'est un des messages, je pense, qui est important aujourd'hui. Lorsque les gens, bon, les gens plus âgés, les gens avec des problèmes de santé font la COVID, n'hésitez pas à consulter vos professionnels de la santé. C'est pas toujours facile, je le sais, au Québec, entre autres, d'avoir un médecin de famille, mais lorsqu'on a accès, puis même nos pharmaciens peuvent le prescrire, les pharmaciens communautaires peuvent prescrire les traitements antiviraux. Donc, n'hésitez pas à consulter, puis les professionnels vont vous dire si vous êtes éligible ou non à recevoir un traitement qui pourrait vraiment avoir un impact sur votre santé.
Alex, docteur Luc Boileau est en conférence de presse aujourd'hui à propos, là, pour faire le point sur la pandémie et sur le nouveau vaccin là, qui va être accessible au Québec dans quelques jours, demain. Et il y a eu un moment de désaccord entre docteur Boileau et docteur Caroline Couache, qui est pédiatre et aussi épidémiologiste et médecin, là, on la connaît. On va écouter l'extrait.
C'est deux maladies différentes, c'est deux maladies qui peuvent nous donner des problèmes, puis la COVID, c'est sûrement plus à risque de nous donner des problèmes que l'influenza, là, on sait tous ça.
Mais non.
Ben, c'est-à-dire, ça dépend des groupes, puis tout ça, là, je ne veux pas rentrer dans les détails médicaux, mais l'idée, c'est de profiter des deux vaccinations.
Alex, qui a raison?
En fait, les deux ont un peu raison. Il y a eu beaucoup de chemin déjà qui a été fait sur cette conférence de presse-là, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde bêtement, disons, au fil de la pandémie, la mortalité, entre autres, liée à la COVID, a beaucoup diminué depuis 2 ans. Et proportionnellement, en fait, lorsqu'on fait un cas de COVID, on a à peu près autant de chances d'en mourir que l'influenza, peut-être même moins. Par contre, d'un autre côté, la COVID est beaucoup plus transmissible que l'influenza, ce qui va générer davantage de cas. Donc, je dirais, il y a des éléments qui sont encourageants, mais par contre, ça demeure une menace quand même importante. Puis, mais c'est toujours très, très hasardeux de comparer les deux. C'est deux maladies qui sont effectivement très différentes. Bon, principalement des virus respiratoires tous les deux, mais je dirais que c'est à peu près là que les comparaisons peuvent s'arrêter.
Merci Alex, toujours un plaisir.
Ça fait plaisir, au revoir.
À la prochaine. Alex Carignan, microbiologiste infectiologue au CHU de Sherbrooke. On va parler de cinéma maintenant. Ça va dans un registre totalement différent. Écoutez, Top Gun, c'est vraiment le film de l'été, du printemps et même de l'automne, là, on peut le dire. Parce que Maverick, Top Gun Maverick, est revenu au numéro 1 du box-office nord-américain après 4 mois à l'affiche. Il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans. Tant mieux pour les producteurs et tant mieux pour Tom Cruise. Pendant ce temps-là, ben, les films québécois font assez piètre figure au box-office partout dans la province. On va parler de tout ça avec un réalisateur de films québécois. Il a réalisé les films Arsenault et fils qui a pris l'affiche cet été, et aussi Camion il y a quelques années. Raphaël Ouellet est au bout du fil. Salut Raphaël!
Salut, bonjour.
Raphaël, merci d'être avec nous. Je vais citer un tweet que tu as fait, OK? Puis après ça, on va le mettre en contexte. On en parle peu, mais le box-office nord-américain, celui d'ici, est extrêmement inquiétant pour l'avenir du cinéma. Top Gun est premier ce week-end après 4 mois à l'affiche. Le top 10 est très, très bas en termes d'entrée. Spider-Man et même Jaws, le Jaws original des années 70, se sont faufilés dans le top 10. Qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans pour un cinéaste?
Ben, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un certain cinéma qui ne se fait plus ou qui trouve plus son chemin vers les salles de cinéma, ce qui fait qu'il y a vraiment une faible quantité de films à l'affiche. Alors maintenant, les salles, les distributeurs s'appuient beaucoup sur les blockbusters américains. Donc, il y a comme une espèce de trou qui fait en sorte que les gens vont moins au cinéma. Bien sûr, il y a des chiffres incroyables, là, comme ceux de Top Gun et cet été, même un film qui a été qualifié de mauvais comme le Jurassic World a très bien performé, mais c'est pas suffisant pour remplir 10, 15, 20 salles. Donc, on regarde le box-office. Moi, je le suis là depuis le 17 juin. Je le suis à chaque semaine. Il n'y a pas beaucoup de films à l'affiche. Les blockbusters vampirisent tous les écrans, mais c'est pas suffisant pour amener beaucoup de gens au cinéma. Donc, si on regarde les chiffres année après année, il y a nettement là des résultats plus bas, une décroissance, si
mais
on peut dire.
Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est le résultat, disons, du pipeline de production de films qui a été entravé pendant la COVID?
Plusieurs le disent, certains le disent en fait. Je pense que ça peut certainement jouer, mais il y a une prise de risque qui ne se prend plus. Il y a vraiment beaucoup d'appétit pour les plateformes de streaming. Il y a beaucoup de crainte de sortir un film qui va coûter 20 ou 30 ou 50 millions, de peur qu'il n'en fasse que 2 ou 3 millions. Tu sais, avant, on avait accès à beaucoup de films américains, on disait du milieu, tu sais, qui pouvaient être des drames, des comédies romantiques, des films pour ados. Ça tend à disparaître. Donc oui, la pandémie, effectivement, a probablement un petit peu entravé le pipeline, mais les habitudes des gens aussi ont changé. On a vraiment trouvé un certain confort chez soi. Puis lorsqu'on sort de chez soi, ben on choisit nos loisirs. Puis peut-être que le cinéma, tranquillement, ne fait plus tellement partie des choix des gens là, des gens qui ne sont pas des cinéphiles ou qui ne sont pas des gens amateurs de blockbusters.
Élaborons un peu sur ce que tu appelles, Raphaël Ouellet, là, les films du milieu. C'est quoi un film du milieu dans ta perception?
Ben, pensez par exemple à des films comme Philadelphia, là, à l'époque, oui. Des films juridiques, par exemple. On ne voit plus ça. Des thrillers érotiques ou des thrillers psychologiques. Maintenant, c'est voué à aller directement sur les plateformes, ces films-là. C'est les films qui sont pas les films indépendants voués au festival qui, eux, vont continuer d'exister parce qu'il y a un réseau pour ça, il y a un marché pour ça. Et à l'autre bout du spectre, il y a les blockbusters. Donc, au centre, les films qui ne coûtent pas des centaines de millions, ils s'en fait de moins en moins. On pourrait penser à Prisoners, par exemple, de Denis Villeneuve. Est-ce qu'aujourd'hui, Prisoners serait pertinent? Est-ce qu'il trouverait son chemin? Puis on n'est pas 20 ans plus tard, là. On est quelques années plus tard. Est-ce que Prisoners trouverait son chemin sur le grand écran? J'en suis pas si certain. Je pense qu'on se dirait, ah, tu vois, ce budget-là, tant qu'à investir en promo, on va l'envoyer direct sur une plateforme, puis on va se rentabiliser peut-être plus rapidement, ou le risque va être beaucoup moins. J'ai même entendu récemment, peut-être Forrest Gump aurait peut-être jamais vu le jour si on était, s'il avait été pensé aujourd'hui. Il aurait peut-être coûté trop cher pour les plateformes, mais en même temps, pas assez attrayant pour aller chercher le public qui est attiré par le popcorn puis les jeux vidéo presque autant que le film en soi.
Je sais, Raphaël Ouellet, que je parle à un amant du cinéma. Tu fais des films, je le répète, tu es le réalisateur de Arsenault et fils, de Camion. On a pu voir tes œuvres aussi dans des séries télévisées. Mais tu aimes le cinéma. Est-ce que les films ont besoin des salles de cinéma absolument pour exister?
Ben moi, je pense que oui, parce que ça prend les salles pour créer un momentum, pour s'inscrire dans la culture populaire. Il y a plein d'autres raisons romantiques, là, tu sais, de oui, voir ça entre amis, collectivement, de faire le choix, de faire le geste, de se déplacer. Il y a mille et une raisons d'aller au cinéma. Mais pour moi, si on veut qu'un film s'inscrive dans la culture populaire, et qu'il dure, on parle de Jaws aujourd'hui. Bon, Jaws revient à l'écran après toutes ces années. Il est dans la culture populaire. Il a même inventé une phobie, là, collective. Mm-hmm. Donc, si on veut ça, ça prend cette espèce de geste collectif. Et sur les plateformes, mais pas tout le monde a accès aux plateformes. Pas tout le monde regarde les mêmes choses. Et tout à coup, l'offre devient presque diluée. Bon, de temps en temps, on va avoir un Game of Thrones, par exemple, dans les téléséries qui vont devenir un peu unanimes et universelles. Mais pensez à des films qui ont été pensés spécifiquement pour les plateformes. Ils sont plutôt rares, ceux qui ont fait l'unanimité ou en tout cas qui ont été vus par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et qu'on va pouvoir retrouver dans des jeux questionnaires dans 10 ans. Là. Oui. C'est même les Moulins de ce monde qui sont sortis par Disney, des grosses productions, ça passe un peu dans le beurre, ça devient un peu confidentiel ou en tout cas, ça s'adresse vraiment aux abonnés de telle ou telle plateforme. Ça scinde l'offre puis ça crée moins de culture populaire. Puis pour nous, au Québec, ben, ça pourrait moins créer parce que nous, on est un peu à l'abri de tout ça, mais ça pourrait moins créer ça aussi là, de culture commune.
Raphaël, écoute, je voulais revenir au cinéma québécois parce que, bon, on l'a vu pendant la pandémie, les gens consommaient davantage de contenu cinématographique à la maison. La fenêtre entre le cinéma puis ce qu'on appelle du vidéo sur demande, elle est quand même assez longue. C'est-à-dire que t'as ton buzz avec ton film, vous donnez beaucoup d'entrevues, vous donnez de la lumière au film quand il arrive en salle. Quand le film sort après en vidéo sur demande, j'ai l'impression que c'est là où on va vraiment rejoindre des gens, tu sais. Puis je me suis demandé, est-ce qu'il faudrait pas réviser notre façon de commercialiser le cinéma pour que les sorties se fassent plus rapidement après? Parce que c'est vrai que les habitudes ont changé, puis peut-être que c'est à la maison que vous allez être capable de rejoindre davantage de cinéphiles.
C'est pas impossible. Moi, c'est sûr que tu me dis ça, puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a moins de momentum, qu'il y a moins un truc collectif. Mais par exemple, de ces jours-ci, je travaille avec Louis Morissette. Il me disait que lorsque son film Le Guide de la famille parfaite est sorti en demande, il n'y a jamais autant eu de réactions du public, de courriels, de gens qui lui écrivaient, puis les gens se sont manifestés. Puis le film a bien fonctionné là, sur grand écran.
Oui.
Donc peut-être que c'est une piste, absolument, mais en même temps, c'est le fun qu'il ait sa chance. Moi, qu'un film, moi je suis extrêmement chanceux là. Arsenault, et c'est un peu dû à la pénurie de films, on se contente pas de mentir. Mais Arsenault entre dans son troisième mois là. Il retourne à l'affiche ce vendredi. Ça va faire 3 mois qu'il est à l'affiche. Donc, on est très chanceux. Mais n'empêche que les cinéastes, lorsqu'on pense notre film pour le grand écran puis qu'on a envie que ça soit savouré collectivement, ben, on espère avoir une semaine qui est un peu plus longue qu'un mois ou deux. Mais je suis bien conscient qu'à l'extérieur de Montréal, les films vont durer une semaine ou deux. Donc, à ce moment-là, oui, les plateformes, et louer le film en ligne, c'est salutaire, là. Ça, c'est certain, certain.
Mais je vais te ramener à l'ordre sur une chose. T'as pas été chanceux. Ton film, c'est le film de l'été. Je l'ai vu. Tout le monde que je connais qui l'a vu a trouvé ça bon. C'est pour ça qu'il est encore en salle. Dis pas que c'est de la chance. C'est du talent. Voilà.
Ah, ben, t'es très gentil. Mais je regardais les chiffres, puis des dernières semaines, puis je me disais, le film, il est là parce que je pense que les propriétaires de salles ont besoin de films. Ont besoin de remplir des salles, des écrans, parce que sinon, habituellement, là, après 2 mois, c'est bye-bye pour à peu près tout le monde. Puis là, ben, on dure. Même si les chiffres sont pas faméliques, les chiffres cet été, là, des gros films québécois qui sont sortis, mais sont pas non plus extraordinaires, à l'exception de Confession de Luc Picard. Mais quand même, on pourrait peut-être faire mieux, mais là, on est dans la durée, et ça, c'est quand même heureux, là, pour l'instant. On bénéficie de cette pénurie-là, là, du pipeline un peu brisé, là, du cinéma américain.
Merci, Raphaël. Bonne journée. Merci d'avoir pris le temps.
Hey, génial. Merci à vous.
À la prochaine. Raphaël Ouellette, réalisateur de cinéma québécois, notamment du film Arsenault et fils.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Ben, on le sait, la surprise politique depuis quelque temps, c'est pas que la CAQ vogue vers une victoire électorale. Ça, je pense que ce serait surprenant que la CAQ ne gagne pas. Non, c'est la force du Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime. Et ce parti est très, très fort dans la région de Québec et particulièrement chez les jeunes. C'est ce qu'indique un sondage Segment Le Soleil FM 93 qui a été publié hier. On va parler de tout ça avec l'animateur au FM 93 de Québec, Jérôme Landry. Salut, Jérôme!
Salut Patrick.
Est-ce que ça te surprend la force d'Éric Duhaime?
Oui, je suis très surpris parce que au début, quand il s'est lancé officiellement en politique en devenant chef du Parti conservateur, on se le cachera pas là, sa base était garnie à peu près uniquement de gens qui étaient des citoyens qui étaient enragés contre les mesures sanitaires. On était encore à l'époque où il y avait des mesures qui étaient très, très contraignantes. Éric faisait de la radio à cette époque-là, comme chroniqueur, était très, très présent sur les ondes de la radio, puis il a réussi à canaliser la colère de ces gens-là pendant cette période-là. Sauf que ce qui est surprenant, Patrick, c'est qu'actuellement, le Parti conservateur est bon deuxième dans la grande région de Québec, quand même loin devant QS, loin derrière la CAQ, faut le dire aussi. Mais ce qui me surprend, c'est quand j'écoute des gens, puis moi, quand quelqu'un me dit « Ouais, Duhaime, il est pas pire », tu sais, j'ai tendance à essayer de discuter avec eux, puis à ces gens-là, à cette base-là, il s'est garni beaucoup, beaucoup de citoyens qui disent « Ah, c'est vrai qu'il y avait peut-être eu quelques bouffonneries, tu sais, bon, Anne Cazabonne comme candidate, c'est peut-être pas très sérieux. Un discours, des fois, qui joue sur la ligne, hein, quand il est question des vaccins aussi, puis des complots, là, il s'en est détaché un peu, mais tu sais, quand il parlait de vaccination, Éric, des fois, ça, c'était pas toujours facile hein, de lui faire parler des bienfaits des vaccins. Donc, des gens qui font abstraction de ça, mais qui disent « Caroline, on va voter pour lui quand même.
Oui, »
Éric, c'est une méga vedette à Québec aussi, il faut dire. Le personnage est très, très, puis c'est en augmentation, là, je pense, à sa notoriété. Et c'est des gens qui disent, ah, ouais, il a peut-être pas toujours été correct, c'était peut-être pas toujours clair, mais on vote pour lui quand même parce qu'on veut envoyer un message à la CAQ.
Jérôme, il est indéniable que c'est un communicateur très, très doué, OK? Oui. Il est indéniable aussi que les conspirationnistes sont très entichés d'Éric Duhaime. Là, il y a une étude de l'Université de Sherbrooke qui montrait que 50% des électeurs du Parti conservateur ont adhère à des théories du complot. Mais si on exclut l'attrait, disons, du négationnisme sanitaire, qu'est-ce qui pogne avec Éric Duhaime?
Bien, je pense qu'il y a encore des gens qui... Puis écoute, c'est rien de scientifique, là. Moi, ce que je te dis, ce que je lis dans mes textos, mes courriels, les gens que je rencontre, il y a encore bien des gens qui ressentent une frustration. Tu vas dire qu'ils vivent un peu dans le passé, là. Je suis peut-être un peu d'accord avec toi, mais qui sont encore frustrés, par exemple, c'est le couvre-feu le 31 décembre dernier. Mm-hmm. Les masques à l'école, ce genre d'affaires-là, la fermeture des sports, et qui craignent un retour de ça. Là, est-ce qu'on est dans le complot ou pas? Je sais pas. T'sais, moi, je vois pas pourquoi, tu me demandes mon avis, pourquoi François Legault, actuellement, nous cacherait une intention de revenir à des confinements, puis là, soudainement, le 4 octobre, on revient avec ça. Mais il y a des gens qui ont encore cette crainte-là. Je suis pas sûr qu'ils sont dans les, complots, mais ils ont cette crainte-là qui est une espèce de d'épée de Damoclès qui sont encore au-dessus de nos têtes. Il y a une partie de ces gens-là aussi, Patrick, qui, quand Éric parle de privé en santé, puis quand Éric parle de baisse d'impôts puis d'État plus petit, il y a aussi une clientèle pour ça dans la région de Québec, on se le cachera pas, là.
OK, parlons des jeunes, Jérôme, parce que ça c'est vraiment intéressant, là. Si on prend les 18-34 ans, OK, 33% des 18-34 dans la région de Québec se disent prêts à voter pour le Parti conservateur et 35% pour Québec solidaire. Fait que, tu sais, on parle beaucoup de la force de la droite à Québec, mais la gauche chez les jeunes est assez forte aussi.
C'est très, très fort. Moi, ça m'a jeté à terre, ce chiffre-là, quand j'ai vu ça hier matin. Et je t'avoue que j'ai été très, très surpris de voir que la CAQ est même pas dans la lutte. Je pense qu'ils sont à 17% dans cette,
14%
dans cette tranche d'âge-là.
14,
c'est ça. Écoute, ils sont même pas dans la course. Et moi, c'est une opinion, une opinion Mike Two Cents, comme on dit. J'ai l'impression que quand on est jeune, des fois, on est peut-être un petit peu moins nuancé dans nos idées. En tout cas, moi, c'était mon cas quand j'étais plus jeune, j'étais moins nuancé. Je suis peut-être pas encore assez aujourd'hui, mais faut pas se faire encore là-dessus non plus, mais est-ce que j'ai l'impression que quand t'es un petit peu plus jeune, t'as des idées un petit peu plus claires, puis Éric représente bien ça, puis de l'autre côté du spectre, Québec solidaire représente bien ça. Je pense pas que QS soit on pense pas qu'on puisse les qualifier de parti radical, mais c'est des idées qui sont très, très bien assumées quand même. C'est la même chose du côté d'Éric Duhaime, puis ce qui est spécial, c'est de voir que dans ce sondage-là, je pense pas que ce soit documenté, mais ça a été documenté par d'autres sondeurs. C'est qu'Éric Duhaime va même jouer de temps en temps dans la clientèle de Québec solidaire. Ça, c'est surprenant. Ça me surprend depuis quelques mois, ça.
Attends, les sondages ont montré que Éric Duhaime, qui est un gars de droite, puis je dirais même pas de, tu sais, légèrement centre-droite,
ouais,
il va ratisser dans le cours de QS qui est vraiment à gauche.
Ben écoute, j'ai pas les analyses devant moi, mais j'ai lu des chroniqueurs comme Rémi Nadeau, du Journal de Québec, il y a plusieurs mois, qui avait fait cette analyse-là. Pour la région de Québec, il me semble avoir déjà lu aussi des sondeurs reconnus au Québec. Ils disaient oui, effectivement, Éric Duhaime va peut-être jouer un peu dans cet état-là. C'est-tu à cause du discours un peu anti-vaccin ou avec beaucoup, beaucoup de réserves sur les vaccins, discours un peu je suis peut-être un peu dans les préjugés, là, dans l'analyse à 25 cents là-dessus, là. Mais j'ai remarqué ça, qu'il y a même une candidate là dans Tachereau qui est déjà une ancienne militante de Québec solidaire, là.
Écoute, l'autre donnée, moi, qui m'a vraiment surpris, là, c'est que la CAQ dans la région de Québec, c'est un parti de vieux, on va dire ça comme ça, là. L'appui de la CAQ dans la région, c'est 61% chez les 55 ans et plus.
Oui. Oui, c'est moi aussi ça m'a surpris parce qu'on voyait pas ça dans les dernières élections. Est-ce que c'est l'image du premier ministre et bon père de famille? Est-ce que c'est la répétition quotidienne des points de presse d'un gouvernement qui voulait notre bien et qui disait qu'on devait protéger personnes âgées? Tu sais, moi, depuis 2 ans, Patrick, là, je croise beaucoup de gens qui respectaient les mesures, qui faisaient pas des gros parties chez eux, mais qui s'ennuyaient de la vraie vie, qui s'ennuyaient du sport de leurs enfants, qui s'ennuyaient de leurs loisirs, eux autres, de leurs sorties, des restaurants, des spectacles, etc. Puis qui, des fois, comprenaient pas trop pourquoi il fallait faire ça pour les plus âgés, les personnes plus vulnérables. Mais je suis d'accord avec toi, c'est surprenant, après 4 ans, que ce soit devenu un parti de vieux ou un vieux parti, si on en croit ces chiffres-là, c'est effectivement assez saisissant.
Jérôme, tu sais, ça fait quelques années que je te regarde aller, puis tu sais, je pense, oui. Si je dis que je te vois comme un gars de centre-droit, je pense pas me tromper, là.
Ben, écoute, de plus en plus, je me fais traiter de gauchiste à la radio.
C'est sérieux?
Et puis, c'est arrivé beaucoup pendant ces deux années-là, parce qu'il y a des gens qui, les auditeurs, des commentaires que je recevais, qui avaient l'impression que je trahissais le conservatisme en me faisant vacciner, puis en disant que je respectais les mesures, puis en encourageant les gens, alors que ça avait aucun rapport avec les idées politiques. Je t'avoue que la droite s'est un peu radicalisée, puis... Je me reconnais plus beaucoup dans... Il n'y a plus grand politicien de droite dans lequel je me reconnais, là, pour être honnête avec toi.
Okay, parce
ni au
que...
Canada, ni au Québec, ni aux États-Unis.
Parce que j'allais te poser la question, tu sais, en tant que gars de droite, là, est-ce que tu considères voter pour Éric Duhaime? Mais là, je pense que tu viens de répondre à ma question.
Non, mes auditeurs de Québec le savent bien. Éric, c'est un ami de longue date, hein, parce qu'il a été chroniqueur de mon émission longtemps, au début des années 2010. Mais moi, je suis pas capable d'y pardonner le flou de son discours pendant la pandémie, l'espèce de discours, puis il est très, très habile à jouer sur les mots, Éric, là, mais l'espèce de discours que, écoute, le gouvernement faisait ça pour nous contrôler, puis les vaccins, ça devrait être un choix individuel, alors que collectivement, on était tous pris dans ça. Moi, comme électeur, j'ai bien, bien de la misère à y pardonner ça, ce bout-là, même si je suis d'accord avec ses idées sur le privé en santé. Moi, je te dirais que là-dessus, le privé en santé, c'est même plus une question d'être de droite ou de gauche, là, c'est que à mon avis, à moi, c'est devenu une question d'être pragmatique, d'être réaliste, là, que d'introduire de la concurrence dans le système de santé. Mais non, j'ai pas, j'ai bien de la misère à y pardonner le bout de la pandémie.
Là. Mais Jérôme, c'est intéressant ce que tu dis, puis là, je pense à voix haute. T'sais, on a beaucoup parlé de la gauche qui a changé. Tu sais, le centre de gravité de la gauche s'est modifié dans les 10 dernières années. La gauche, c'était, tu sais, les travailleurs, l'égalité sociale, donner des chances égales à tous. Et ça s'est, pas complètement, là, mais il y a eu une sorte de virage vers les identités. Tu sais, beaucoup les identités ethniques, les identités de genre, les orientations sexuelles, beaucoup d'emphase là-dessus. Ouais. À droite, quand tu regardes comment Poilievre est en train de prendre le contrôle du Parti conservateur fédéral, comment Maxime Bernier a encouragé ce virage à droite vers aussi des théories du complot, toutes sortes d'idées un peu saugrenues, à droite aussi, il y a comme une redéfinition du centre de gravité de la droite, là.
Oui, puis c'est spectaculaire de les voir aller. T'sais, Pierre Poilievre donne un bon show, là. Lui non plus, j'ai pas le goût de voter pour lui. Là. Je le trouve trop trop radical, je le trouve trop en colère. Je trouve qu'il fait du clientélisme lui aussi, un peu comme Éric Duhaime, un peu comme Trump, à plus petite échelle que Trump, évidemment. Mais moi, je me reconnais aucunement ce politicien-là. Et ça veut pas dire que ça va fonctionner, par contre. C'est bien beau séduire ta base électorale. Tu sais, chez les conservateurs, là, dans ce parti-là, le Parti conservateur de 2022, moi, ce qu'on me raconte à l'interne, c'est qu'il y a beaucoup d'élus et de militants là-dedans qui veulent pas gouverner, ils veulent avoir raison. Ils se voient comme les grands défenseurs la doctrine conservatrice et des idéologies conservatrices, puis si t'es le moindrement modéré, si t'es le moindrement comme un Red Tory, t'as pas d'affaires ici, puis t'es pas un vrai conservateur, puis oh, t'as peu, là, c'est assez, c'est quand même assez particulier comme, écoute, moi, je m'en cache pas, je l'ai déjà dit à quelques reprises, moi, la dernière élection, j'ai voté libéral, Patrick, je veux dire, c'est la première fois de ma vie que je votais libéral au fédéral, mais je trouvais que j'ai bien de la misère à me reconnaître dans la droite en 2022.
En tout cas, je te dirais, là, vraiment intéressant, c'est que toi et moi, on a grandi, puis il y a beaucoup des gens qui nous écoutent, à une époque, il y avait deux partis. Tu avais deux choix.
Oui.
Et là, l'offre politique au Québec, ben écoute, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Ouais, ben écoute, puis même les deux partis avec lesquels on a grandi, si tu regardes les chiffres ici à Québec, là, les deux sont plus là, sont même pas dans la course, c'est du 6-7%. Parti libéral, Parti québécois, là, je pensais jamais voir ça dans ma vie, c'est quand même particulier, là.
Merci beaucoup, Jérôme, toujours un plaisir, prends soin de toi. Salut, à la prochaine.
Salut.
Jérôme Landry, animateur au FM 93 à Québec.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.